Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
On n'est pas dans le sud-ouest de la France ou dans les Alpes de Haute-Provence. On est ici en Bretagne, terre de production intensive. La culture, elle est là, elle est ancrée, elle est solide et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui de résistance au changement, qui pourtant est devenue nécessaire.
Un agriculteur se suicide tous les deux jours. J'ai vérifié ce chiffre plusieurs fois. Hélas, il n'y a pas d'erreur. 200 fermes disparaissent chaque semaine. Et de la bouche de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, près de 10% des exploitations d'élevage, soit entre 22 000 et 25 000, sont au bord du dépôt de bilan. Il faut savoir qu'un agriculteur en moins, ce sont aussi 7 chômeurs en plus, puisqu'ils génèrent des emplois ouvriers dans l'industrie agroalimentaire, des emplois administratifs dans les coopératives, du travail par les entreprises de bâtiments, etc. En Bretagne, on compare la crise agricole à la fin de la sidérurgie en France. On se voit déjà comme un territoire désolé, sans industrie, sans autres habitants que les retraités ou les touristes. Ici, pourtant, sur seulement 5% des terres agricoles françaises, on produit 57% de la viande et du lait français. En réalité, explique le syndicaliste Bernard Lambert, les agriculteurs perdent de plus en plus le contrôle de leur production. Un phénomène qu'en d'autres temps, on aurait appelé la prolétarisation. Les contrats passés avec les coopératives agricoles créent un cadre très contraignant. L'éleveur ne choisit plus l'aliment à donner à ses bêtes, ni le prix auquel revendre sa production. La coopérative négocie avec lui les emprunts bancaires, achète sa production, mais par contre ne prend pas à sa place les risques financiers, les dettes, les crédits à rembourser. Prolétarisation donc, et aussi précarisation, engrenage des crédits à rembourser, les agriculteurs ne s'en sortent plus, on le sait désormais. Malgré les annonces récentes du gouvernement, la crise des éleveurs est donc loin d'être finie. Les actions se sont multipliées le week-end dernier et toute cette semaine. Samedi s'ouvre le salon de l'agriculture qui promet d'être agité. Aujourd'hui donc c'est le 4e épisode du journal breton d'Inès Leroux. Elle est partie à la rencontre de cette France en souffrance qui essaie de se faire entendre et à qui elle essaie de donner une voix. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture évidemment.
En réalité on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Vendredi 19 février, un agriculteur s'adresse aux élus à Noyal, en Ille-et-Vilaine.
On enregistre tout ce que l'on fait chez nous, tout. C'est-à-dire que vous faites une injection à une vache laitière, elle est enregistrée. Vous intervenez dans vos parcelles pour épandre un pesticide ou un herbicide, vous l'enregistrez. Et sur ce sujet-là, il y a un truc qui est en train de se préparer, qui est à mon avis très grave quand même. C'est que demain, tout le monde pourra aller consulter ce que nous aurons épandu avec notre pulvérisateur dans les champs. C'est un véritable scandale. Attendez, on est suffisamment contrôlé comme ça par des gens de l'administration. Si en plus il faut que la société puisse nous contrôler, on va où là? Et je dirais que c'est des charges forcément supplémentaires.
Samedi 20 février, un représentant du syndicat agricole FNSEA dans un rassemblement à Loudéac, dans les Côtes d'Armor.
Pendant plus de 15 ans, je me suis battu à Paris sur l'environnement et les normes. Car c'est de ça qu'ont besoin les agriculteurs, les petites entreprises. C'est de moins de paperasserie, moins de tracasserie et qu'on leur fasse confiance sur ce qui est leur métier. Le potentiel que l'on a en Bretagne et en France est gigantesque. Surtout, ne le laissons pas tomber.
Merci Thierry. Merci beaucoup. On reste en lien, on reste vigilant, on reste solidaire. Une fois de plus, Loudéac, ce n'est pas un aboutissement, mais c'est un commencement.
Depuis 4 mois maintenant, je me suis installée dans un petit hameau dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, et je vois monter de jour en jour la colère des éleveurs intensifs. Parce qu'il s'agit bien d'une crise de l'élevage intensif. Les petites exploitations et les exploitations biologiques autour de chez moi connaissent peu la crise. La parole des éleveurs industriels se libère. Je me rends dans leur rassemblement et je suis surprise de découvrir le credo de la FNSEA. Pour se sortir de la crise, il faudrait investir, se moderniser, produire plus et se libérer des normes environnementales. Le problème de cette crise, ce sont les normes environnementales. Je n'avais encore jamais entendu cela. Des exploitations agricoles ouvrent leurs portes au public. Je me rends sur l'une d'entre elles afin de mieux comprendre la situation. Je suis dans l'exploitation d'Yvon et Rémi. C'est un grand bâtiment, toutes les vaches sont à l'intérieur. Tout est robotisé, il y a des brosses en robot qui peuvent brosser les vaches qui le souhaitent. Il y a des espèces de racloirs dans les couloirs où stationnent les vaches qui passent automatiquement tout seuls, qui ramassent les bouses. Et il y a un robot de traite. Bonjour, vous êtes Yvon?
Oui, c'est ça.
Vous avez combien de vaches?
Aujourd'hui, il y a 130 vaches laitières, donc c'est 1 million de litres de lait pour 3 associés.
Par an?
À partir de maintenant, oui, on va faire 1 million de litres de lait par an. En 2012, on a investi 350 000 euros dans la robotique, donc il y a deux robots de traite, donc les vaches passent 24 heures sur 24 quand elles veulent. On a un écran dans le bureau et qui nous donne la situation de chaque vache.
Donc là, c'est une vache qui se fait traire toute seule.
Voilà. Donc le robot, il est intelligent parce qu'il fait beaucoup de choses. Il va, dans un premier temps, reconnaître la vache. Il va lui donner un peu d'aliment en fonction de la production qu'elle produit. La vache a fini, le bras se met en parking et voilà la vache qui sort. Voilà le racleur. Donc il pousse les déjections des animaux au bout du bâtiment pour les amener dans la fumière. Regardez l'état de nos vaches. Même les sabots, les vaches sont propres. Très propres. En rouge, c'est le laser. La vache est identifiée, elle s'appelle Hollywood. C'est la 4002. Sa mère, c'était Cannes. On essaye de mettre des noms pour se rappeler des origines. Cannes, Hollywood, ça le fait. Alors, elle a peur du racleur qui passe. Elle attend qu'il avance. Moi j'ai 56 ans, je suis agriculteur depuis l'âge de 23 ans. On arrive à traire quand même 90 à 100 vaches par jour, matin et soir. Les mouvements répétés de branchement de la vache avec la griffe dans la main ici, sous la vache, le poids de la griffe, ça tire sur les épaules. Et l'avantage du robot, c'est que j'ai plus mal à l'épaule. Rémi, tu pourrais mettre une note dedans?
Et la nuit, quand vous n'êtes pas là, les vaches, elles continuent
oui,
à se faire traire?
Oui,
la nuit, le robot peut nous appeler 24 heures sur 24. Ça peut être, je sais pas, une vache qui a débranché un manchon et du coup, faut venir là. Ça peut être à 1h du mat, comme à 2h du mat.
Et vous préférez le travail avec le robot?
Moi, je suis plus jeune, donc non, j'aurais préféré une salle de traite, moi. Il y a beaucoup plus de travail avec le robot, pour moi.
Vous êtes soumis au robot, en fait.
Voilà, on est soumis au robot, ouais. Et au final, dans 10 ans, c'est du matériel qui ne vaudra plus rien. Donc, à chaque amélioration, il faut encore emprunter, quoi.
Vous avez quel âge?
J'ai eu 30 ans au mois de juillet l'année dernière. Je suis né ici et j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans ma commune natale avec Yvon, donc, qui était mon ancien patron de j'étais stagiaire à l'époque ici, quoi. Et comme ça, et ben, je suis revenu dans mon pays. Donc j'ai mes parents ici, j'ai toute ma famille qui est à Goudelin ici. L'avantage d'être ici, c'est en GAEC, donc on est à plusieurs. Ce qui est bien, c'est que un dimanche sur deux, on ne travaille pas. Et c'est ça l'avantage. On peut avoir du temps. Moi, j'ai 3 enfants, ma femme, et du coup, je peux leur consacrer au moins un dimanche tous les 15 jours. Ouais, on ne peut pas faire mieux. C'est déjà énorme, un dimanche sur deux. Moi, j'ai été donc installé 6 ans en individuel. J'ai pris 3 jours de vacances en 6 ans. J'ai pu prendre une semaine cette année.
Et vous travaillez combien d'heures les autres jours?
En moyenne, 70 heures par semaine. On se prélève chacun 1200 euros par mois de salaire. C'est peu pour le nombre d'heures qu'on fait. Moi, j'ai de la chance que ma femme travaille à l'extérieur. Donc, elle a un salaire aussi plus élevé, aux 35 heures. Donc, c'est quand même triste. Elle fait 35 heures, moi, j'en fais 70 et je gagne moins. Mais bon...
Mais pourquoi vous continuez ce métier?
Bah, en fait, depuis que j'ai 5 ans, je veux être agriculteur. Donc, mes grands-parents étaient agriculteurs. Et j'ai toujours voulu faire ce métier-là. C'est une passion, donc... Mais bon, la passion, si les tarifs continuent comme ça, c'est le dégoût qui va prendre le dessus sur la passion. Ben, j'espère qu'on va s'en sortir. Les économistes nous disent qu'on est parti pour 50 crises dans l'agricole. Donc là, aujourd'hui, notre exploitation, la trésorerie est encore saine. Enfin, l'épargne, on en avait pas mal. En 6 mois, les 3/4 ont été, sont partis pour payer les factures. Il nous reste plus qu'un quart. Et ça va partir, en 3 mois, il n'y aura plus rien. Donc après, comment on va faire pour payer nos factures, se payer nous-mêmes? On ne sait pas. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de normes qui sont demandées, quoi. On est dans un pays où on nous demande toujours plus de normes environnementales. Et en Bretagne, on a donc une qualité du lait, on va dire, il n'y a pas plus blanc que le lait breton. C'est-à-dire qu'on nous impose des règles strictes. Et dans les autres pays d'Europe, c'est beaucoup plus laxiste, quoi.
La Bretagne est une terre intensive. C'est la région française qui produit le plus de porc et de lait. Sur ce tout petit territoire, la concentration animale est donc très importante. Par exemple, il y a 3 fois moins de bretons que de cochons. 3 millions de bretons pour 9 millions de porcs. Et l'on ne sait plus quoi faire des déjections qui polluent les terres et les eaux. Au lieu de diminuer la taille des élevages, la France poursuit sa politique agricole d'intensification et d'exportation et contrebalance depuis plus de 20 ans en assujettissant les éleveurs bretons à des normes environnementales toujours plus sévères qui tentent de sauver les rivières. Cette année, par exemple, la directive 5 impose d'épandre dans les champs des fumiers compostés plus longtemps et donc un peu assaini. Mais en réalité, le dilemme production de masse ou santé et environnement semble se poser. Voyons ce qu'en pense Yvon.
La qualité de l'eau en Bretagne aujourd'hui est bonne. Ça fait 20 ans qu'on y travaille, et malgré ça, la France est sous la peine d'une grosse amende par rapport à l'Union européenne, je ne sais pas combien de milliards, par rapport à la qualité des eaux, si elle ne retrouvait pas la qualité des eaux. Et donc, la France a décidé de durcir la réglementation et nous impose 5 mois et demi de stockage pour nos fumiers. On a une fumière couverte de 450 mètres carrés qui nous permet aujourd'hui de stocker 2 mois. Au bout de 2 mois, elle est pleine, il faut la vider.
Il faut que vous fassiez un deuxième hangar de stockage.
Oui, que je double le hangar. Ça nous coûte 80 000 euros. À côté de ça, il nous manque 4 000 euros par mois aujourd'hui.
En ce moment, vous perdez 4 000 euros par mois.
Par mois, oui. Sur les 6 prochains mois, il n'y a pas d'avenir mieux que celui-là. On va perdre 25 000 euros dans les 6 mois qui viennent. Pardon. Comment voulez-vous aujourd'hui que j'investisse dans 80 000 euros alors que je perds 24 000 euros sur 6 mois? C'est impossible. Donc, on en a marre.
Du coup, quand vous comptez les moins 4 000 euros, vous avez quand même votre salaire de 1 200 euros.
Oui, heureusement. Beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui ne prennent pas de salaire aujourd'hui, malheureusement. Parce que la banque resserre la vis parce que les comptes sont dans le rouge. Goudelin, notre commune, sur les 29 exploitations aujourd'hui, il y en a 9 qui sont à vendre, dont 7 faillites. C'est une cata. Notre Premier ministre nous a accordé 7% d'aide sur les charges sociales. On va avoir une réduction de 1600 euros sur notre cotisation sociale sur l'année 2016. Je vous ai dit qu'on perd 4 000 euros par mois. Monsieur le ministre, vous vous foutez de nous. Ça, c'est donner une sucette à un gamin pour le faire taire. Hein, c'est une honte. Ce qui m'est un peu triste quand même, j'ai une fille de 20 ans,
qui aime le métier. Elle est à l'école à Angers. Elle fait agricadre. Et aujourd'hui, elle a 20 ans. Je la décourage à reprendre ma suite. On est agriculteur de génération en génération. Je suis le premier dans une lignée à ne pas souhaiter voir mes enfants rester. C'est triste à dire.
La nuit est tombée. Je suis toujours sur l'exploitation de Yvon et Rémi. Des voisins sont venus les voir. Ils se sont réunis dans un petit abri à côté de l'exploitation.
Vas-y, rentre.
Je vais les retrouver. Vous, en fait, vous êtes aussi laitier ?
Oui, je suis producteur de lait avec ma femme. Nous avons 500 000 litres de lait sur 47 hectares. Mais au jour d'aujourd'hui, on se retrouve un peu juste. Ça fait que pour vivre, il nous reste 500 euros.
Et tu perds combien sur ton lait par mois ?
Ben, par mois, on tourne entre 3 et 4 000 euros.
Entre moins 3 et moins 4 000 euros ?
Voilà. Et moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Et jusqu'à là, bon, quand même, on a eu, il faut le dire aussi, de bonnes années. Mais par contre, c'est sûr que des années comme ça, j'en ai pas connu. Et bon, moi, je ne peux pas baisser les bras vis-à-vis que mes enfants sont susceptibles de s'installer. J'ai mes enfants qui souhaiteraient reprendre aussi. Et ben, la seule solution, c'est que continuer. Il faudra y aller. Peut-être à perte, mais bon, je continuerai. De toute façon, je peux que continuer. J'espère pour moi et pour mon fils qu'il y aura des années meilleures.
Tu t'appelles comment ?
Moi, je m'appelle Clément. J'ai 16 ans. Là, je suis dans un lycée agricole. Je fais un bac pro. Je suis né dedans, j'ai vu mon père depuis tout petit faire ça. Alors ça m'a passionné, tout ce qui est travail autour des bêtes, l'alimentation, les soigner, pailler sous les vaches, tout ça.
Ça c'est beau. Tout ce qui touche. C'est un beau métier en soi.
Oui, c'est un très beau métier. C'est un beau métier.
Encore faut-il qu'il paye.
On va être obligé d'ici peu, peut-être pourquoi pas, demander des aides au niveau... Puisque dans les communes, il y a bien des cas sociaux qui sont en demande de nourriture. Nous, en tant qu'agriculteurs, il n'y a pas de gêne à faire. Hein. Si notre dossier passe, on peut bénéficier de 3-4 boîtes de conserve comme autre chose.
Hein. Les Restos du Cœur, par exemple ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas de honte, moi je dis, il n'y a pas de honte. Il faut y aller, pourquoi pas ? Si c'est la même solution.
Vous vous rendez compte de ce qu'on vit quand même ? C'est pas normal de vivre ça. Travailler 70 heures par semaine pour perdre 4000 euros par mois. Qui voudrait ça ?
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Jacques Mellet, je suis à la poterie. Donc ici, on peut voir ce qui reste de mon ancien élevage, parce que je me suis installé en 1987.
Je suis à la ferme de Lamar. Jacques et Isabelle y produisaient 1400 porcs par an, de manière industrielle, sur caille bottier en béton.
Est-ce qu'on peut aller voir votre élevage de porcs ?
Bien sûr.
Et ils élevaient 22 000 poules pondeuses.
Donc ça, c'est le bâtiment des cochons. Donc c'est un bâtiment semi-ouvert, comme on peut voir. Ben, les cochons sont dans la paille. Là, il y a 220 cochons à peu près. Bon, c'est vrai, c'est un tout petit élevage pour l'emballe. Hein, c'est... Et ils vous ont vu, donc ils se sont tous barrés. Et ils reviennent voir ce qui se passe. Et là, finalement, elle a pas l'air méchante, la dame. Moi, j'ai le plaisir de voir mes cochons dans mon bâtiment. Ils sont pas stressés. Bon, leur finalité, c'est de passer dans notre assiette quand même. Mais ils ont une vie, je pense, assez agréable par rapport à leurs confrères qui sont dans des bâtiments industriels. À partir de 1994, on a eu des difficultés financières. On était embêtés avec les plans d'épandage à l'époque. C'était la mise aux normes des exploitations. Et donc nous, c'était sur Lisier. Donc si vous voulez, les porcs étaient élevés sur Caillibotti. C'est un sol béton ajouré, on appelle ça. Donc il y a les urines et les déjections qui vont sous les cochons. Ça fermente et ça donne le lisier.
Le lisier qui va servir d'engrais sur les cultures
Ouais, le lisier, c'est une matière liquide noire odorante et très chargée en ammoniac et qui est responsable, enfin quand il y a une surutilisation, de la pollution en Bretagne. Tous les phénomènes des marées vertes, c'est dû aux épandages de lisier trop massifs, parce que le lisier en soi-même est un bon élément quand il est utilisé à bonne dose. L'inconvénient, c'est que c'est lessivable. Quand le sol est gorgé d'eau et qu'on rajoute du lisier, il y a un lessivage, donc l'azote part vers les rivières, ce qui a entraîné le phénomène d'algues vertes en Bretagne. Et donc on a réfléchi à une façon de se sortir un peu de ce système qui n'était pas viable parce qu'on perdait de l'argent, donc on envisageait de quitter la profession. Et c'est en réfléchissant deux minutes, j'ai vu plusieurs corps de métier, j'avais des copains, j'en avais un qui était chauffeur dans une boîte d'aliments qui gagnait très bien sa vie à trimballer de l'aliment entre l'usine et l'élevage. Je l'ai visité un grand abattoir là qui avait fait des travaux énormes, qui gagnait beaucoup d'argent. Enfin, c'était une unité de transformation. Je voyais les grossistes qui gagnaient de l'argent. Donc tout le monde gagnait de l'argent, sauf nous. À partir de ce constat, on s'est dit, est-ce qu'on peut essayer de récupérer les marges plutôt que de confier nos porcs à un groupement qui va les vendre à un abattoir, qui va les vendre à des saisonniers, qui vont transformer, qui vont essayer de l'exporter ou le vendre à les grandes surfaces et les grandes surfaces trouver les clients. J'ai dit, peut-être que nous, on peut court-circuiter le tout et vendre nous-mêmes nos porcs. La seule solution qu'on a trouvée, c'est la vente directe. On a décidé donc de réduire la taille d'élevage, de fabriquer notre aliment à la ferme.
Vous avez fait l'inverse de ce que préconise aujourd'hui la FNSEA, qui est d'être plus compétitif, de moderniser, de s'agrandir.
Ouais, parce que pour moi, c'est une fuite en avant et c'est pour attaquer le marché mondial, on ne sera jamais compétitif. À mon avis, c'est illusoire de penser qu'on va élever un porc en Bretagne avec des céréales qui viennent d'Amérique du Sud, enfin le soja notamment, pour ensuite le transformer et l'envoyer à manger à des Russes ou des Chinois ou... On aura toujours des pays qui vont faire ça moins cher, quoi. Pour moi, les Bretons, on n'a pas vocation, à mon avis, à nourrir la planète avec des céréales importées de l'autre bout de la planète. C'est stupide, à mon avis. Moi, fin 94, j'ai eu cette idée-là de cochon, donc je me suis documenté à fond, j'ai fait plein de calculs, et le 10 janvier 95, j'ai proposé à la banque l'idée suivante, c'est je vais vendre une partie de ma production sur paille, au particulier à un prix que je vais fixer moi-même. J'ai besoin d'un investissement de 200 000 francs pour faire mon labo. Bon, le Crédit Agricole n'a pas accepté à l'époque, donc j'ai fait un règlement amiable judiciaire, ce qui a permis d'étaler nos dettes sur 15 ans. C'était 15 000 euros par an pour du vent, parce que c'était pour des bâtiments qui n'existaient pas, quoi. Un taux de 6% quand même, donc au Crédit Agricole, quoi. L'inconvénient de notre métier, c'est qu'on passe beaucoup d'heures. La transformation est très exigeante. Charcutier, c'est un métier, j'y connaissais rien, quoi. On a ouvert la charcuterie, j'avais jamais coupé une côte de porc, j'avais jamais fait de pâté. Donc on a tout appris sur le tas, quoi. Donc il faut être un peu fou, quoi. Il faut être très rigoureux. Au niveau sanitaire, au niveau technique, pour avoir un résultat gustatif qui convienne à tout le monde. Parce qu'il y a entre 100 et 140 clients qui passent par semaine à la ferme acheter leur charcuterie. Donc ça demande beaucoup de temps, mais on gagne correctement notre vie, oui. Il n'y a aucun problème. Et nous, la charcuterie, donc on vend au même prix, voire un peu moins cher que les supermarchés, quoi. Parce qu'on a supprimé tous les intermédiaires. Du temps, on était éleveur industriel, on a toujours perdu de l'argent, je pense. J'ai fait un ou deux bilans positifs, mais c'était toujours soit à l'équilibre, soit un peu négatif.
Et vous travaillez plus qu'avant ?
Bon, oui, on est à 55 heures par semaine à peu près, mon épouse et moi. On travaille beaucoup, mais on gagne correctement notre vie, ce qui nous permet de prendre 5 semaines de congé par an.
L'étalage, là, c'est vos productions à vous.
Oui, donc on élève nos cochons avec les céréales de la ferme. Les cochons sont envoyés à l'abattoir, on récupère les carcasses et on transforme tout. Donc tout est fait maison, ça va du jambon blanc, saucisson sec, saucisson à l'ail, boudin, enfin vous voyez, des choucroutes, rillettes, pâtés, tout est fait maison, ouais. Donc le magasin est ouvert du mercredi au samedi.
Bonjour.
Là, c'est Erwan qui est en intérim pour l'instant, parce qu'on avait un salarié qui était en arrêt de travail. Et normalement, sûrement au mois de juin, on a notre fils qui vient travailler avec nous. Donc ça va être plus facile là.
Alors on va prendre du jambon, voilà. Alors écoutez, vous allez mettre 4 tranches, s'il vous plaît. Alors fine.
Une d'abord de la saucisse fumée, un avec deux allers-retours.
Vous appelez comment ?
Antoine, j'ai 29 ans.
Vous êtes le fils de Jacques et Isabelle.
Oui, c'est ça, ouais. Oui. Et là, je suis en formation là, de agricole. C'est un brevet de responsable d'exploitation agricole pour m'installer avec eux, prendre la suite plus tard quand ils seront en retraite. Et bah là, ça marche pas mal. Ils ont besoin d'un salarié. Du coup, je me suis dit que c'était le moment de bosser avec eux pour prendre la suite plus tard. Les jeunes qui sont avec moi en formation se posent beaucoup de questions là pour la suite. Pour les années à venir, si vraiment ça va redécoller ou si c'est pas trop risqué de reprendre une ferme, quoi. Est-ce qu'on pourra sortir un salaire demain ? Est-ce qu'on va pas droit dans le mur, quoi ?
Et on vous parle pas des alternatives ?
On nous les conseille pas, non. C'est des niches. Après, bah, celui qui veut se lancer là-dedans, c'est un risque à prendre, quoi. Mais c'est pas un truc qui est prôné par la formation. Les jeunes ne sont pas forcément encouragés, non, à partir sur la vente directe. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas pourquoi ils... plus sur des modèles conventionnels avec de la production intensive si on veut quoi.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le journal breton d'Inès Lérault, une émission réalisée par Emmanuel Geoffroy. L'attaché de production, c'est Sandrine Chaperon. Merci à Yvon Lantoen, à Rémi Cotin, ainsi qu'à leurs voisins. Merci à la famille Mellet, à Roger Andrieux, à Alice et Marie-Pierre et à tous les éleveurs et agriculteurs bretons que nous avons rencontrés. Dimanche à 18h15 sur France Culture, Olivia Gesbert, dans son émission Dimanche et après, reviendra sur la crise des éleveurs et la crise agricole. En attendant, restez sur France Culture. Dans quelques instants, ce sont les nouvelles vagues de Marie Richeux. Vous le savez, il n'y a pas que les pieds sur terre.